Alors j'ai appelé cette conférence « Sortir du trou où on nous confine ». C'était une phrase qui était écrite dans le pressbook de l'AMP. Et je vais parler effectivement de l'arsenal Sommaire-Poitiers, mais je vais parler surtout de avant et après 88. Essayer de retracer la première scène punk à Poitiers, que j'ai appelée du désert culturel à la Fédération, les scènes locales et le confort moderne. Ça va traiter de 78-88. En partant déjà de la première période qui va être celle qui s'appelle, que j'ai appelée désert culturel, parce que c'est celle de 79 à 81. Dire qu'à Poitiers, à la toute fin des années 90, les Babas vivent leur dernier moment. Quelques rares concerts rock d'envergure aux arènes, Lou Reed en 78, ACDC en janvier 80, Mama Béa ou Higelin au théâtre, des concerts de jazz et quasi pas de groupes locaux, à part Arc-en-Ciel qui fait du hard rock, un club rock les Bacchantes, un local alternatif le Puy de la Caille, Gaucho et des bars sans intérêt. Depuis 1978, une association programme des musiques aux frontières du jazz, du rock progressif et de l'avant-garde électronique. Ils ont fait passer Arzoit et Univers Zéro au théâtre de Poitiers dans la lignée Magma, un saxophoniste de jazz américain qui s'appelle Archie Shep, Stevie Ledge, un ancien de Gong, ou les New Yorkais Lounge Lizard, chef de file de New Wave. L'association s'appelle L'Œil Écoute, devenue L'Oreille Étardie un peu plus tard. En novembre 81, le nouveau gouvernement socialiste libère les ondes. C'est la naissance des radios libres. Premier pas vers le do-it-yourself. Tout devient possible. Les verrous sautent entre pros et amateurs. La radio est sans doute le premier vecteur de diffusion du punk en local, avant les fanzines qui se créent un peu après. Le punk a donné un nouveau sens à une jeunesse qui s'ennuie, a libéré des énergies qui se perdaient dans la poudre pour certains. Des groupes se forment sans savoir jouer, c'est ça la magie du message, et que ceux qui ne savent pas jouer ou qui chantent faux font de la radio, des fanzines, des labels, pour se sentir acteurs du courant exaltant qui bouillonne de toutes parts. Le slogan « Do it yourself » est reçu 5 sur 5. En 82, je vais passer à la période 82-84 que j'ai appelée Poitiers s'éveille. Dès 82, des élèves du lycée privé des Feuillants montent Radio Pulsar avec le soutien d'un curé rock, le père Cato, qu'on surnomme Boss. Les punks, entre autres, envahissent les créneaux horaires. Le fanzine Laocon fait la liste des émissions de Radio Rock dans son numéro 1 de septembre 83. L'image que vous voyez actuellement, il y avait quand même donc Fever sur Forum, fait par deux filles. Bunker sur Pulsar, Garage Land sur Pulsar également, et 15 autres émissions sur les ondes des 4 radios libres qui émettent sur Poitiers à l'époque, Pulsar, Forum, RPO et FMP. La radio est le premier moyen de diffuser du punk, à part de monter un groupe, de faire découvrir des disques ou des démos, plus simples et plus directs que le fanzine. Avec la radio, on va obtenir des interviews, approcher les artistes, et c'est une grosse motivation. Dans un laps de temps assez court, entre 82 et 84, le rock s'organise à Poitiers. Des groupes punk comme Emergency, dans le style Clash, Normal Vital, New Wave, Torturé avec Clavier, The Fist, plus Punk 77, commencent à jouer dans des garages, parfois dans des sous-sols, comme pour Emergency et The Fist. En 82-83, la tendance est aussi Cold Wave à Poitiers, avec Odessa, inspiré par Ian Curtis, et Indus, avec des groupes comme Des Traces ou La Confirmation. Mais l'éruption depuis 82 des premiers groupes de hardcore américains, Flipper, Black Flag, Dead Kennedys, amène une musique différente, plus rapide et plus hargneuse, alors que le rock alternatif français prend de l'ampleur avec Les Bérus, Oberkampf, Les Shérifs, OTH, et délivre en français le message de la jeunesse insoumise et des voyous. En juin 83, l'association L'Oreille et Hardy, forte de 200 grooms programmés sur la ville depuis sa création et qui réclame depuis des mois une salle à la municipalité, jette l'éponge. L'OH se saborde avec panache, avec un mois de festivités dans plusieurs lieux, et en finale, le meeting de Poitiers sous chapiteau avec Sonic Youth, Théo Acola et surtout Killing Joe, qui déplace des gens de la France entière et la presse nationale. Pour les radios libres, un vrai feu d'artifice. Les radios s'en donnent à cœur joie niveau interview et ça crée aussi des fanzines pour aller plus loin. Ainsi, le premier numéro du Laocon, en septembre 83, contient 5 pages sur Killing Joke. Le numéro 2, juste à septembre 84, contient l'interview de Sonic Youth. L'association AMP, composée de Didier Bourgoin et deux autres personnes, est créée en 81 pour la promotion de la musique « rock », entre guillemets, comme on faisait à l'époque. Elle organise d'abord deux booms 100% rock, c'est-à-dire des soirées DJ en fait, avant une première action d'éclat en juin 84 avec le concert Berrurier Noir et Caméra Silence à l'Amphi Descartes. L'AMP, c'est l'association musicale Poitevine, nom tellement nul qu'on lui substituera très vite celui d'activisme méphitique. On fait la radio sur Pulsar avec des émissions comme Babylon's Burning en 82-83, puis le fanzine Laoko en septembre 83 inaugure la carrière de l'association qui enchaîne alors fanzine, radio et musique autour des groupes Normal Vital, The Fist, Emergency et un groupe de filles, Oleum Perdisti. Malgré la gamelle monumentale que fut le concert des Bérus, un deuxième concert est organisé en fin d'année, en 84, toujours à Aliénor d'Aquitaine, avec Emergency, les Maîtres et les Corbeaux du Reichstag. D'autres structures programment également, comme les radios RPO et Forum, qui font jouer Varum Joe, Pacifique 231 et Osweiss à la Blaiserie, en décembre 84. J'ai retrouvé un tract il n'y a pas très longtemps. D'autres, voilà. Mais la scène, finalement, reste très, très, très réduite, comme le constate HM de Raticide dans le « Tant qu'il y aura du rock » numéro 3-4. Voilà. Où il le constate et il dit « Sur Poitiers, à part le café-théâtre, l'Agora qui fait dans le jazz, rock, chanson et quelques rares concerts ponctuels, Rock Forum, le concert anti-militariste avec Odessa et la confirmation, et le concert AMP à l'Amphi Descartes, dans quelques maisons de quartier, rien. Mais ça devrait changer à la rentrée, puisque l'OH, fort de ses subventions, ouvrira une salle de concert, d'expo, bar, vidéo. Même constat pour des traces, groupe Indus, interviewé dans le Laocon numéro 1 en septembre 83, qui regrette la disparition de l'OH. À Poitiers, il n'y a pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose après l'OH. C'est l'après-OH qu'on vit en ce moment à Poitiers. C'est pire qu'une alerte nucléaire. Il n'y a plus rien. Tout est vide. Je passe à la période 85-87, que j'appelais le retour du fils de l'OH. Après 2 ans de silence, mais pas d'inaction, en mai 85, l'Oreille Hardy ouvre la première friche culturelle française dans des anciens entrepôts d'électroménager, le confort moderne. C'est l'événement marquant de l'année, avec une inauguration officielle par Jack Lang et des retombées médiatiques nationales. La programmation est résolument décalée et avant-gardiste, avec l'Erita Mitsuko pour l'inauguration. Le confort moderne se compose à son ouverture du bar, où se déroulent les concerts, et d'un entrepôt dédié aux futures expositions d'art contemporain. Les locaux de répétition sont créés très tôt, mais pour une vraie salle de concert de 700 places, il faudra attendre encore un peu mars 88. La soirée d'inauguration est relatée dans « Tant qu'il y aura du rock » numéro 5. C'est l'image que je suis en train de vous montrer. David n'a pas trop aimé la soirée et surtout il déteste Rita Mitsuko qui lui a mis un coup de poing. L'AMP précise dans son pressbook que l'absence de concert en 86 est due au manque de salles. Pourtant, le confort moderne a ouvert ses portes et l'AMP y a d'ailleurs programmé un concert des Ludwig en novembre 85, peu après l'ouverture. Mais les concerts suivants de l'AMP auront lieu au garage à vélo, en association avec le label Tâche de Sang Productions. Pardon. Avec le label Tâche de Sang Productions, on va faire le 14 avril 87, Chao, The Fist et Normal Vital. Et au mois de juin de la même année, PLZ, Darkom, ce qui est Pussy Killers, et un petit peu plus tard, Christian Marclay à la M3Q. Mais l'AMP n'est pas le seul acteur alternatif de Poitiers, tant s'en faut. Il y a aussi TDS, il y a le FCBN aussi, Fan Club des Berruriers Noirs, le fanzine métal Lame de Fond, la FLOF, qui est créée en 88, organise des concerts, font des fanzines et de la radio, tout en étant musicien pour certains. TDS, décryptage de son production, en particulier, est très actif sur la scène Indus, avec des productions de cassettes et des concerts, en association avec l'AMP. Le livret qui accompagne sa troisième cassette donne à voir la scène Indus d'alors, et la première page très intéressante. Elle est là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Donne le nombre d'entrées des deux concerts organisés par les deux assos. Ce qui est quand même pas mal, parce que je crois qu'il y a des chiffres comme 135 entrées ou des choses comme ça, ce qui est quand même plutôt correct pour une petite association. La cassette contient pour Poitiers les groupes Shazam, Chao, PLZ, L'Astrada et Derkomsk, plus quelques groupes qui ne sont pas de Poitiers. Et on y trouve aussi une info sur l'émission Unzerkampf sur Pulsar. Je vais vous passer un petit peu les images. En fait, c'est un pressbook, enfin, c'est le livret qui accompagne la cassette. Ça, c'est PLZ. Ça, c'est L'Astrada, Derkomsk, Unzerkampf, c'est l'émission de radio. Le confort moderne n'est pas un lieu punk et s'intéresse à cette époque moyennement à la scène locale. La programmation est nationale et internationale. C'est un lieu important en termes de place, jauge de 700 places, mais inadapté pour un concert où l'on attend 80 à 100 personnes si tout va bien. Trop grand, trop cher, trop froid, avec une scène très haute qui ne favorise pas la proximité avec le public. Les petites assos vont chercher ailleurs des lieux plus en accord avec leurs moyens et leur public, et se tourne, comme avant, vers les maisons de quartier, à Poitiers, la 3Q, Beaulieu, la Blaiserie, Cap Sud, Aliénor d'Aquitaine. D'autres lieux encore possibles pour jouer. Le garage à vélo sur le campus, le caveau sous Blossac, qui va durer 2-3 ans, et quelques rares bars comme le Puy de la Caille, qui deviendra le Jasco, l'Agora ou le Café d'en face, sur Poitiers même. Et dans les environs, le Cerisier Noir à Nintré, le Latin appartenait, ou plus loin encore, le Petit Paumé, bar qui porte bien son nom en plein désert du sud Touraine à Chaumusset, dont je vous montre un concert qui a eu lieu là-bas. D'autres lieux, salles des fêtes des villages, ouvriront leurs portes aux décibels de manière plus ponctuelle. Voilà, c'était un peu compliqué de restituer les traces justement avant l'Arsenal, puisque là j'ai utilisé quelques pressbooks, quelques fanzines, mais voilà, je pense qu'il manque quand même des infos. C'est beaucoup plus simple à partir de l'arrivée d'Arsenal, qui là, pour le coup, va nous donner, sans trier finalement, tout ce qui peut se passer. On reste quand même dans le domaine du rock, mais un gros groupe, un petit groupe, un groupe débutant seront tous traités de la même manière. Donc Arsenal sommaire, c'est une petite feuille d'info mensuelle, une demi-page photocopiée recto verso et distribuée gratuitement à Poitiers et plus loin. Arsenal parce qu'on y trouve de tout, sommaire parce que l'info est réduite à l'essentiel, Poitiers, parce que ça rayonne autour de Poitiers. Alors l'intention de départ, en fait, en septembre 87, paraît le premier numéro, le numéro 0 d'Arsenal Sommaire Poitiers, celui-ci, en attendant la sortie du cinquième et dernier numéro du Laocoon. Le fanzine est long à faire, toujours beaucoup d'écart avec l'actualité, et son propos se veut décalé. Depuis 2-3 ans, voire un peu plus, la scène est active en région, les concerts se multiplient, mais l'info ne suit pas. Rien de plus rageant que de s'apercevoir après coup qu'on a raté un groupe qui passait dans le coin parce qu'on n'avait pas l'info. À part les grosses boîtes qui ont les moyens d'afficher partout, pour une petite asso, l'affichage ne dépassera guère les frontières de la ville et ce n'est vraiment pas suffisant. Arsenal part de ce constat qu'il n'existe rien de ce genre et décide de le créer. Depuis plusieurs années que l'AMP est active, elle a noué des relations avec d'autres assos plus loin et le réseau se met ainsi en place. Arsenal annonce les groupes et les concerts de Poitiers, de la région aussi, où ça bouge bien, à Parthenay, Limoges, Blois, Bordeaux, La Rochelle, etc. Dans chacune de ces villes, une ou deux assos donnent la dynamique. Diffard, Triposte, Émilie et Nuit, La Casamance et Métrope à Bourges s'agitent avec le même état d'esprit que l'AMP, indépendance et do it yourself. Je ne comprends pas, c'est pas dans l'ordre mes images. Bon. L'idée de réseau est hyper importante. Making connection, c'est ce qu'on va retrouver pas mal de fois écrit sur le track. C'est vraiment le credo de Arsenal. C'est comme un leitmotiv, ça revient. Il s'agit de provoquer des rencontres, de susciter des échanges. Ainsi, le caractère très sommaire de l'info, info brute, laisse encore un peu de travail au lecteur d'Arsenal, d'autant qu'il doit se déplacer pour le trouver. Il n'y a pas d'envoi au particulier. On le trouve dans des lieux de rencontre, bars ou disquaires. Il faut aller le chercher. Encore une fois, c'est l'idée de partage et de rencontre. L'arsenal est informatif, mais il est composé comme un tableau où le visuel tient une place prépondérante. Pourquoi je tourne en rond sur mes images, moi ? Bon, voilà un bel exemple, justement. Les premiers numéros sont écrits à la main et à la machine à écrire. La mise en page est encore manuelle, ciseaux-colle. L'occasion de faire des collages qui vont habiller l'arsenal pendant longtemps. Jusqu'en mars 99, on va passer à une présentation plus classique avec l'arrivée des ordinateurs, mais moins créatifs visuellement. Il faut dire qu'il y a de plus en plus d'infos à annoncer et de ce fait, plus beaucoup de place pour l'ornementation du tract. Je vais vous passer vite fait en revue les numéros d'Arsenal. Il y en a 225, donc, mais je ne vais pas tous les citer, bien sûr. L'histoire d'Arsenal n'est pas un long fleuve tranquille. Différentes péripéties humaines, éditoriales, jalonnent son parcours. Pas facile de citer ou d'extraire des points forts de ces contenus, au total des centaines de groupes, des milliers de concerts, des milliers de souvenirs et d'anecdotes. Je vais donc passer brièvement en revue l'histoire d'Arsenal sommaire Poitiers, sous un angle peut-être inattendu, celui des problèmes d'édition. Précisons tout de même que du côté des groupes et des assos, l'entente a toujours été parfaite, du premier au dernier numéro, que la confiance, l'amitié, la sensation d'avancer dans le même sens n'ont jamais fait défaut. Non, les problèmes qu'a rencontré Arsenal sont surtout d'ordre financier. J'en profiterai pour faire quelques apartés sur la Nuit Noire et la Fanzinothèque, puisque Didier Bourgoin en est le dénominateur commun. En octobre 87, Fabrice et Did, congelé SA et Did R, à l'époque, conçoivent Arsenal comme un supplément du Laocoon en attendant la sortie du numéro 5 le mois prochain. Il est diffusé d'emblée à 1000 exemplaires dans 6 départements grâce à son tout petit format économique, une page à 5 recto verso. Il est financé par les deniers personnels des rédacteurs. En mars 88, au numéro 6, l'AMP ouvre une boutique de disques associative La Nuit Noire. Elle se trouve dans l'un des garages dans la cour du confort moderne et Didier est derrière le comptoir, la main sur la platine disque, toujours un nouveau truc à faire écouter. Ouverture les soirs de concert, des occasions, des nouveautés, des échanges, des labels alternatifs français, Jungle Hop, New Rose, Pias, Bondage, des labels américains, Discord ou Alternative Tentacles, des autoproductions, des fanzines, des flyers. Des surprises, des rencontres entre groupes, avec les groupes qui passent au confort, entre ceux qui suivent la scène alternative punk et hardcore. Et aussi des bourses aux disques, à Blois, Orléans, Tours, Saintes. L'occasion de nouer des liens solides et arrosés avec le réseau indé des disquaires, des labels, des assos. Des voyages à Paris au rideau de fer munis de wanted list, c'était tout ça la Nuit Noire. La fête de l'indépendance battait son plein. Tous les jeunes poitevins qu'on retrouvera plus tard dans les groupes se souviennent de la Nuit Noire. Et je vais citer Didier qui dit « Avant la Nuit Noire, pour choper un disque, il fallait sérieusement s'accrocher devant le prix ou ne pas rechigner à partir à l'étranger et ramener des tonnes de disques, de zines, de docs à tout le monde. La Nuit Noire a permis d'amener en 87-88 une diversité musicale qui n'existait pas ou plus en France à l'époque. Diversité musicale, disques, cassettes, vidéos, t-shirts, fanzines, etc. » Il y avait pas mal de monde qui descendait d'un peu partout pour venir y faire ses achats. Et la Nuit Noire rivalisait largement avec des trucs comme Reconstruction à New York, par exemple, 5 ans après. La Nuit Noire a été inaugurée pour le concert des Berruriers Noirs au confort, organisé par le fan club des Berruriers Noirs. Elle va tenir 4 ans jusqu'en 92. Le local sera ensuite repris par le label World Records, puis une démothèque qui reprendra le nom de Nuit Noire, puis par le disquaire Transat, qui va rester jusqu'aux travaux récents du confort. Transat est de l'autre côté maintenant de la cour. En mars 89, on est au numéro 18. Les infos sont rédigées à 3, Did, Fabrice et Pierre. Pierre est l'auteur des plus beaux fonds d'Arsenal, collage minutieux et audacieux, lyrique, riche de références graphiques, utilisées comme un discours visuel. Certains numéros sont presque des gravezines. En janvier 90, au numéro 28, on en est à 10 départements et 2000 exemplaires. Didier confiait la Nuit Noire à Pierre pour s'occuper de la Fanzinothèque. On a le réseau justement à cette période. En septembre 90, on trouve la première mention de la Forzinothèque dans l'Arsenal. Très brève. La Forzinothèque existe depuis un an. C'est une structure créée et subventionnée par la municipalité. Elle s'occupe de collecter et conserver les journaux lycéens. Bref, elle n'a pas trop sa place dans l'Arsenal. Mais ça va changer. En novembre 90, au numéro 38, lors du deuxième Trans-Europe Hall au Confort Moderne, la Forzinothèque organise le premier festival national des fanzines et de la presse parallèle, Transinoal, dans un grand hangar du Confort. 100 fanzines se déplacent à Poitiers, des fanzines rock, des gravezines, 3 invités étrangers, activistes du fanzina en Italie, Belgique et en Angleterre, des performances graphiques et sonores, des concerts choisis pour leur lien entre le graphisme et la musique, Karbala 413 et les Watchmen, dans une ambiance survoltée et alcoolisée. 200 litres de sangria gratuite. Le public poitevin ne s'est pas beaucoup déplacé pour cet événement, mais les journalistes présents pour Trans-Europal en feront largement écho. En février 91, au numéro 41, Fabrice abandonne l'Arsenal. L'adresse du tract est désormais à la Nuit Noire. Pierre à la boutique est aux premières loges pour recevoir et rédiger les infos. Il devient le principal rédacteur jusqu'en décembre 91, puis se désintéresse du rock, de la région et de la boutique, attiré par les sirènes de la techno et les rives de la Tamise, d'autres projets en tête. En novembre 91, au numéro 50, l'Arsenal organise les premières rencontres Arsenal à Niort sur une péniche. Une trentaine d'assos et de structures alternatives se déplacent pour débattre du rock en région, de la nécessité de travailler ensemble, de regrouper les forces. La journée est filmée par Arsenal Vidéo avec quelqu'un de Diffart et Patrick Tréguer en régie. Le réseau se structurera ensuite par la suite suivant sa propre logique. Logique de proximité entre Bordeaux et Périgueux qui travailleront longtemps main dans la main pour faire passer des groupes en respectant leurs dates respectives. C'est tout bête, mais deux bons concerts le même soir à moins de 100 km, c'est stupide, tout le monde est frustré, le public, les organisateurs, ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait plus arriver. Logique musicale pour certains coins comme Entranger et Périgueux qui vont s'échanger à coups de split EP des groupes entre ces deux villes-là. Orléans et Poitiers résonneront longtemps aux mêmes accents du hardcore radical. Une deuxième rencontre Arsenal aura lieu un an plus tard pendant le Rock Festival de Fontenay-le-Comte. En janvier 92, on en est à 15 départements et 120 points de dépôt, dont 80 lieux de concert. La Nuit Noire périclite, plus assez d'argent pour renouveler le stock, plus de quoi payer Pierre. Au mois d'avril 92, c'est la fin de la Nuit Noire, après le clash avec les deux autres personnes de l'AMP. L'Arsenal perd la moitié de ses effectifs. Un an après, en juin 93, au numéro 68, deuxième festival des fanzines à Poitiers qui s'appelle Zine en Trance, qui a lieu au Crêpes de Boivre. La Forzinothèque perd de l'argent et ne peut pas sortir le numéro de juillet-août. Arsenal a bien failli s'arrêter là. En novembre 96, numéro 104, la Forzinothèque a un site internet où l'on peut lire Arsenal, mais bien peu sont connectés. En juillet 97, au numéro 112, un tirage à 4000 exemplaires en coproduction avec le festival Stop Hypocrisie à Marmande. La Forzino crée pour l'occasion l'exposition 20 ans de Forzine Rock 1977-1997, histoire d'un mouvement parallèle, et sur 8 mètres de long expose les 112 numéros d'Arsenal édités en 10 ans. En octobre 1997, au numéro 114, ce numéro est encore coproduit à 4000 exemplaires avec le Rock Festival de Fontenay, qui nous fournit un plan tirage gratuit. À partir de janvier 1998, Arsenal rencontre de sérieuses galères de thunes. Le tirage redescend à 200 exemplaires. Puis en juillet 1998, tire un numéro à 4000 exemplaires avec l'aide de l'assaut MRP de Marmande. Le tirage à 4000 exemplaires va se maintenir quelques numéros. À partir de mars 1999, c'est fini les maquettes sous Kissim. L'ordinateur fait son apparition, mise en page en deux colonnes avec des illustrations au milieu, plus lisible mais moins créatif visuellement. La colonne centrale sera occupée par Fifi, batteur de Moob, plus ou moins régulièrement jusqu'en mai 2005. Ce numéro est coproduit pour la seconde année par le Festival de Fontenay-le-Comte, mais au numéro 132, on repasse à 200-400 exemplaires, en recommandant vivement à chacun de le photocopier et de le diffuser à son tour. Arsenal coûte 3000 euros par an, tirage et envoi, en particulier les frais de timbre. Et j'en ai fini pour ça. En octobre 2007, au dernier numéro, qui devait fêter les 20 ans d'Arsenal, en fait, ça serait un enterrement de première classe. C'est Internet qui m'a tué, peut-on lire sur sa pierre tombale. Vive la mort, mort au con, on ferme. J'ai résumé brièvement, mais il y a tellement. J'ai juste un peu, parce que je trouve qu'on ne parle pas souvent de ces histoires d'édition. Enfin, hein, c'était quand même pas simple à faire. Un vrai plaisir, mais les problèmes d'argent, si ça n'avait pas été pris en charge par la Forzinothèque, ça n'aurait certainement pas duré si longtemps. La suite au prochain épisode.
Merci beaucoup Marie pour cette communication très, très intéressante à donner. Alors on est désolé, on a eu un problème technique pour l'intervention de Joey Clou qui était une intervention enregistrée, mais on se promet de mettre le texte et la captation sonore de son intervention et son PowerPoint sur notre site internet, sur le site du projet PIND, donc http pindunive-tour.fr. Voilà, vous aurez... Vous pourrez consulter cette communication directement sur le site.